Secrets de plantes, une chronique à la rencontre des plantes sauvages en montagne par Lionel Scaturo et Cyril Bouvet pour apprendre à les découvrir, les identifier, les cueillir et les utiliser.
Eh bien, bienvenue à chacun. Aujourd'hui, on vous invite à partir en balade à la rencontre des plantes sauvages. Et pour cela, eh bien, nous allons aller découvrir l'ail des ours, cette jolie plante printanière. Alors, bonjour Lionel.
Bonjour Cyril.
Si tu avais à nous décrire ton sentiment, quand tu vois l'ail des ours au printemps, finalement, ça te fait quoi?
Ah, j'adore. Quand je pars en balade, justement à la recherche de cet ail des ours, et que j'ai la chance de croiser des fois une grande station d'ail des ours, puisque souvent elles poussent en grand nombre, en général, je suis aux anges. Je m'imagine déjà en train de faire des pestos, en train de faire des pizzas, en train de faire plein de choses, des fromages aussi, des fromages frais, j'adore. Et j'ai qu'une envie, c'est de profiter de sa saveur. Cette saveur, mais pas que, hein. Il ne faut pas oublier que l'ail des ours a tout un tas de bienfaits dont on va vous parler dans cette chronique.
Mmh. Et finalement, alors, à quoi elle ressemble cette plante? Tu peux nous en dire plus?
Alors, cette plante, c'est une plante qui va avoir des feuilles allongées, qui peuvent mesurer parfois jusqu'à 30 cm. Bon, souvent, elles sont plus petites, hein, mais quand même. Elle a une particularité quand même qui va être importante pour sa reconnaissance, c'est que sa feuille est composée d'un limbe, donc le limbe c'est la partie plate de la feuille, et d'une tige qu'on appelle le pétiole. C'est important, je vous en reparlerai tout à l'heure. Après, autre détail, le dessus de la feuille est brillant, donc c'est une feuille bien verte, et le dessus de la feuille est brillant. Cette feuille a une nervure centrale qui est bien saillante sous la feuille, on la va très bien ressortir, et puis surtout avant tout, elle sent l'ail. Ensuite, pour la fleur, si on parle de la fleur, elle va venir un petit peu plus tard, à partir d'avril, fin avril jusqu'en juin. Cette fleur sera blanche, en forme de boule, qu'on appelle une ombelle. Très jolie fleur d'ailleurs, qui sent aussi très très bon l'ail. Tout à l'heure, je vous disais qu'il fallait faire attention à cette histoire de tiges, de feuilles et de limbes. Pourquoi? Parce qu'on peut confondre l'ail des ours avec le muguet. Le muguet, sa particularité, c'est d'avoir une tige, mais deux feuilles accrochées, voire trois parfois. Donc attention à la confusion. Et puis le muguet va être mat, le dessus de la feuille reste mat. On peut aussi confondre l'ail des ours avec les colchiques et les arômes. Le colchique n'a pas de tige, justement, et les arômes ont des nervures qui seront plutôt peinées.
Ok, ben merci pour ces informations hein, sur les confusions possibles finalement qu'on peut faire avec cette plante. Hein. Ce sont des plantes finalement forestières. Mais finalement, je me posais aussi la question sur l'origine du nom. On parle d'ail des ours. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus?
Eh oui, l'ail des ours. Pourquoi est-ce qu'on appelle cette plante l'ail des ours? Alors en fait, il y aurait deux hypothèses. La première, que j'aime bien finalement, c'est que les ours, au moment de leur sortie d'hivernation, iraient se nourrir d'ail des ours, pour à la fois se purger, se fortifier, parce que c'est une plante fortifiante. Voilà, et puis elle sort, en fait elle se met à pousser en même temps que l'ours sortirait de sa tanière. La deuxième hypothèse serait que, en fait, elles ont le même rythme de vie. Quand l'ail des ours sort de terre, on a l'ours qui sort de sa tanière. Et voilà, donc peut-être que Cyril, par contre, maintenant tu pourrais nous parler de l'écologie de la plante et nous dire quelques mots là-dessus.
Oui, bien sûr. Donc, c'est une plante forestière de sous-bois, souvent des feuillus ou des forêts mixtes, ça dépend. On va souvent la trouver en fond de vallon. C'est une plante qui aime l'humidité, les sols riches, profonds, et puis souvent à tendance argileux. On en parle aussi comme une plante sociale, qui va faire des grandes étendues. On va vraiment en voir recouvrir les sous-bois. Et puis, c'est une plante aussi qui va se disséminer grâce à ses graines, dispersion par mutualisme. On appelle ça la myrmécocorie. Donc, c'est en fait grâce aux fourmis qui vont être attirées par la graine qui a un petit appendice huileux protéinique qui va les attirer, elles vont emmener dans leur fourmilière cette graine, se nourrir de l'appendice huileux, et puis ensuite disséminer la graine, et donc ce qui va permettre à la plante de se disséminer.
Est-ce que tu pourrais par hasard nous parler justement de ce qu'on peut cueillir sur cette plante? Parce que bon, il y a plein de choses, j'ai l'impression qu'on peut, on peut manger beaucoup de choses.
Oui, finalement, on peut tout manger, donc ses feuilles, son bulbe, ses fleurs, ses, enfin, ses boutons floraux, ses fleurs, et puis aussi ses, ses graines qui vont avoir ce petit côté piquant assez agréable. Mais finalement, ce qu'on va consommer le plus souvent, c'est les feuilles. Donc c'est des... Comment dire, on va les cueillir entre mars et mai-juin, ça dépend des expositions, ça dépend des lieux, bien sûr. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si on veut cueillir son bulbe, l'impact sur la ressource est quand même assez, assez fort. Donc attention, on sait qu'actuellement, il y a une pression sur la ressource. Et donc peut-être privilégier, valoriser plutôt les feuilles, sachant que c'est vraiment avec ça qu'on peut le, au mieux l'utiliser. Et puis bien sûr, donc ça va être une floraison, une cueillette à la main pour justement être vigilant sur ce qu'on cueille et faire attention justement aux confusions possibles. Et puis donc c'est une plante qu'on va pouvoir, le séchage est rapide et on conseille souvent d'éviter de revenir sur la station tous les ans, sur la même station, essayer de varier justement pour préserver la ressource.
En tout cas, il y a des endroits où il y en a tellement qu'on peut justement s'amuser à aller voir vers d'autres stations sans problème.
Mmh, oui, c'est vrai. Et puis alors, Lionel, au niveau des constituants et des vertus nutritionnelles de cette plante, qu'est-ce que tu pourrais nous dire?
Ah bah, ce qu'il y a de bien, elle est bonne, mais pas que. En fait, elle contient à peu près 3 fois plus de vitamine C que des oranges. Donc, c'est vraiment génial, hein, quand on se fait un pesto d'ail des ours, mais on se bourre un petit peu de vitamine, quoi. Elle contient aussi beaucoup de vitamine A et de vitamine B, et des sels minéraux en quantité importante, comme le potassium ou le manganèse. En plus, elle a pas mal d'antioxydants, elle est antimicrobienne. Elle contient des protéines, parce que toutes les feuilles vertes contiennent des protéines, hein, c'est important à savoir, et de l'huile essentielle. Moi, quand je la cueille, je la mange souvent crue, j'adore crue. Par contre, je peux la manger cuite parce qu'on n'y pense pas forcément, mais c'est super bon. Ça perd un tout petit peu de goût, mais c'est fantastique. Simplement une poêlée d'ail des ours hachée avec des pâtes, c'est magnifique. On peut en faire des tartes, des pizzas.
Ouais, ça donne envie tout ça.
Ouais, ben ouais, oui, j'ai faim d'ailleurs. Donc des pestos, des fromages, enfin plein de choses. Je vais vous donner en quelques secondes la recette du pesto d'ail des ours. Alors, je ne vais pas vous donner forcément la recette classique parce que je fais toujours de l'ail des ours avec ce que j'ai chez moi. Donc, ce que j'ai chez moi dans mon frigo, la plupart du temps, ça va être du cœur de Savoie. Hein, on se trouve ici en Savoie, mais on peut utiliser du comté, c'est ceux qui veulent utiliser du comté, ou d'autres fromages pourvu que ce soit du fromage à pâte dure. Donc, je vais récolter 150 g d'ail des ours, de feuilles d'ail des ours, donc. Je vais hacher ça finement au couteau, s'il vous plaît. On ne mixe pas l'ail des ours. Vous pourrez vous amuser à faire un comparatif si vous voulez, mais en fait, hacher, c'est bien, bien meilleur. Par contre, on va prendre 50 g de fromage à pâte dure. Donc, moi, je prends du cœur de Savoie, que je vais mixer, celui-ci, et 50 g d'amandes. On peut prendre n'importe quel fruit sec. C'est très bon aussi, ça marche toujours. Donc, on va les mixer, ces amandes. On mélange le tout et on rajoute 2 cuillères à soupe de jus de citron. Je couvre d'huile d'olive. Alors attention, n'en mettez pas trop de l'huile d'olive. Juste ce qu'il faut pour rendre le pesto un petit peu pâteux. Donc voilà. Voilà pour ce qui est de la partie culinaire. Maintenant, Cyril, peut-être que toi, tu vas nous parler de ses vertus médicinales et de ce qu'on peut faire avec.
Oui, c'est vrai que c'est un usage un petit peu moins connu, mais c'est quand même une plante médicinale avec laquelle... qu'on peut utiliser au quotidien, notamment on sait que c'est un tonique général, qu'elle a des vertus vermifuges, elle va faciliter la digestion, et puis donc l'intégrer dans l'alimentation sera utile. C'est un protecteur aussi cardiovasculaire, et elle est hypoglycémiante, donc finalement c'est une plante quand même qui a pas mal de vertus. On sait aussi qu'elle est désinfectante, notamment autrefois elle a été utilisée au Moyen-Âge, donc là elle sera utilisée en cataplasme comme désinfectante. Et puis elle a aussi des vertus dépuratives qu'on peut utiliser en cure d'automne ou cure de printemps, notamment dans les campagnes c'était assez pratiqué, notamment pour les problèmes de peau. Et puis un élément aussi intéressant, c'est qu'elle va être détoxifiante des métaux lourds grâce à sa richesse en sélénium et en acides aminés soufrés. Donc ça, c'est quand même aussi super intéressant de nos jours. Et puis, pour finir, c'est un préventif de l'artériosclérose. Et donc au niveau de ces usages, eh bien finalement ça va être souvent intégré dans l'alimentation au niveau culinaire. Déjà on peut bénéficier de ses vertus médicinales. Et puis aussi on peut l'intégrer dans ce qu'on appelle les jus verts, donc les jus verts de plantes. Eh bien y mettre de l'ail des ours avec d'autres feuilles fraîches va être très, très intéressant et sympathique. Et puis sinon elle peut être utilisée en infusion, en teinture mère ou en cataplasme comme je vous le disais.
Et nos anciens, ils n'utilisaient pas l'ail des ours ou quelque chose qui ressemble, par hasard ?
Ah oui, alors c'est vrai qu'il y a aussi une autre plante plus rare, un peu plus haut en altitude, qu'on appelle l'ail victorial, que les anciens appelaient l'herbe aux neuf chemises, et qui était réputée notamment pour ses vertus hémostatiques, c'est-à-dire qui était appliquée sur une blessure et qui arrêtait le saignement. Et donc il l'appelait l'herbe aux neuf chemises, notamment parce que c'est lié à son bulbe avec un aspect un peu en ce qu'ils appellent en, comme des tuniques en réseau. Et donc la forme de son bulbe a donné ce nom, l'herbe aux neuf chemises, mais c'est vrai que c'est plus un nom qu'on trouve de nos jours, on va parler de l'ail victorial.
Bon, eh bien c'est super ça. On a appris plein de choses aujourd'hui. En tout cas, moi, j'ai appris des bricoles. Hein, et j'espère que vous aussi, amis auditeurs. Et nous vous disons au revoir et à bientôt pour une prochaine chronique.
Au revoir.
Retrouvez toutes ces informations dans leur livre « Le guide des plantes sauvages en montagne » paru chez Terre Vivante.